n'avez pas le temps de lire la newsletter littéraire Antiquae disponible sur Kessel, ou tout simplement vous préférez écouter des podcasts, je vous propose donc de retrouver le contenu de ma newsletter dans vos oreilles sur les carnets du Pivert, qui est ma chaîne de podcast, et de retrouver chaque mois la newsletter version audio. Ce mois-ci, je vous mets à disposition la newsletter consacrée à Hadès et Perséphone, et nous étudierons comment du mythe nous sommes passés à la romance à partir d'un roman que j'ai pu découvrir cet été.
Les carnets du Pivert. Les carnets du Pivert.
Lancée dans ma frénésie antique estivale, je me suis décidée à jeter un œil à la saga Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair en écoutant le premier tome A Touch of Darkness sur Nextory. Soyons honnêtes, ce n'est certainement pas un bon roman. Il faut déjà partir du constat qu'il ne s'agit pas d'une romance érotique à mettre entre toutes les mains puisque les scènes explicites se succèdent sur un rythme enlevé. Quant au style, il m'a fait souffler bien trop souvent en enchaînant les clichés comme des perles. Hadès grogne, lève un sourcil, serre la mâchoire à chaque page, et Perséphone est sexy, sexy, et sexy. Et est compatissante aussi. Je me suis même demandé si les personnages portaient parfois au moins de la lingerie sous leurs vêtements. Bref. Pourquoi me suis-je infligé cette lecture? Pour la science, chers auditeurs, pour la réception de l'Antiquité. Parce que, loin de m'arrêter à cette lecture érotique peu convaincante, mon esprit, certes particulier, s'est instantanément mis en marche pour l'analyse de ce phénomène. Pour la précision des références mythologiques, pas de doute, l'autrice a bossé son sujet. Je vous renvoie d'ailleurs à l'article précis d'Émilie Druil qui a recensé les références multiples à la mythologie. Le lien est consultable dans la newsletter. Ce qui m'a intéressée de mon côté, c'est plutôt l'évolution contemporaine des représentations du couple Hadès-Perséphone dans la production littéraire contemporaine. Il s'agit ici d'une ébauche de réflexion, puisque je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais plutôt partager avec vous mes réflexions. Dans un premier temps, reprenons le mythe d'Hadès et Perséphone. Hadès est le dieu des enfers, il tombe amoureux de Perséphone, et l'enlève alors qu'elle est en train de cueillir des fleurs en compagnie de nymphes dans la plaine d'Héna en Sicile. Cet enlèvement se fait avec la complicité de Zeus et en l'absence de Déméter, la mère de Perséphone. Déméter, folle de désespoir à cause de la disparition de sa fille, refuse de rejoindre l'Olympe et donc d'exercer sa fonction de déesse de la fertilité et des cultures. Les hommes connaissent la sécheresse et la famine. Zeus ordonne alors à Hadès de rendre Perséphone à sa mère, mais cela n'est plus possible parce que la jeune déesse a rompu le jeûne. Elle avait mangé des grains de grenade et elle était liée aux enfers. Zeus décide donc qu'elle partagera son temps entre le monde souterrain et le monde des hommes. C'est de là qu'on explique les saisons, l'automne et l'hiver correspondent à la saison où Déméter est en deuil et au printemps et en été, Perséphone est auprès de sa mère. Perséphone, c'est donc la reine des enfers. On la voit apparaître dans le mythe d'Orphée, de Thésée et Péritus et d'Adonis. Dans les réécritures, on peut s'apercevoir qu'Hadès apparaît un petit peu comme le type du bad boy. Hadès pourrait apparaître comme un personnage dangereux. C'est le maître des enfers, il règne sur un monde obscur de douleur, son univers est peuplé de monstres, de divinités effrayantes et de tortures. Sa fonction le contraint donc à une solitude grandissante puisqu'il inspire peur et dégoût. Dans la romance Hadès et Perséphone, il incarne le stéréotype du personnage masculin tourmenté. Dominé par des pulsions de violence et par la souffrance de la solitude, il présente le visage d'un homme cynique et sans compassion. Pourtant, il est habité par un désir de justice et d'égalité très dissimulé. Grand incompris, il reste à l'écart des autres et a peu d'amis. Pourtant, Hadès est le roi des morts. Il règne sur un monde en perpétuelle expansion. Dans la romance contemporaine, il devient un propriétaire de clubs, de restaurants, voire un chef de cartel. Il occupe le monde de la nuit et il y règne sans partage. Sa puissance et son obscurité vont donc se traduire par son physique athlétique et soigné. Toujours en costume, il incarne le contrôle. Ainsi, chacun des mouvements de son visage traduisent la retenue, la méfiance et la colère. Dans le webtoon Lore Olympus de Rachel Smith, il se trouve associé à des couleurs froides et des lignes anguleuses. Perséphone, qu'en est-il ? Perséphone, ce serait plutôt la girl next door. Perséphone, c'est donc la déesse du printemps. En tant que telle, elle est associée à la jeunesse, à la vie. Elle est d'ailleurs surnommée Corée, en grec, qui signifie jeune fille. Dans la romance, comme dans le webtoon, sa jeunesse est signalée par son statut d'étudiante. En journalisme, dans la romance érotique, un petit peu comme dans 50 nuances de Grey, le fait qu'elle soit encore en formation nous apprend qu'elle est encore inexpérimentée dans de nombreux domaines. En puissance religieuse, en compréhension des enjeux sur l'Olympe, mais aussi et surtout en sexualité. Perséphone, en tant que jeune fille, déesse du printemps, est associée à la vie. Ainsi, dans la romance, elle se caractérise par sa compassion et son désir d'introduire la joie aux enfers. Elle est alors très appréciée des âmes et de tous les autres habitants des enfers. Qui dit printemps, dit douceur, couleur, joie. Dans le webtoon Lore Olympus, Perséphone est représentée comme une jeune femme aux courbes souples et au corps rose. On retrouve d'ailleurs un aspect similaire dans la série animée God's School. On peut imaginer que le rose renvoie à une certaine forme de féminité. Quant à sa garde-robe, elle est à dominante blanche et elle symbolise son innocence et sa virginité. L'innocence de Perséphone est exacerbée par le comportement surprotecteur et pour le moins invasif de sa mère Déméter. Élément repris du mythe, la relation fusionnelle des deux femmes empêche dans les deux histoires, l'autonomie de Perséphone, surtout dans le domaine amoureux et donc sexuel, par l'infantilisation de la jeune déesse. Il est à remarquer que dans les deux histoires, la puissance de Perséphone n'est pas encore vraiment révélée. Il semblerait que Perséphone signifie celle qui cause la destruction. Or, sous son apparence frêle, on voit mal ce qu'elle pourrait détruire. Mais c'est que Perséphone est une déesse puissante et terrible. C'est justement cette puissance qu'il lui faut gagner pour s'affirmer. Alors maintenant, Hadès et Perséphone ensemble en tant qu'acteurs principaux d'une romance moderne. Le couple dysfonctionnel a récemment été repris dans le domaine de la dark romance. Bon, c'est pas très étonnant, depuis la vague 50 nuances de Grey, la relation amoureuse toxique a de plus en plus de succès visibles. Mais il ne faut pas croire que ce schéma soit nouveau. Il s'inscrit dans plusieurs traditions littéraires. Dans un premier temps, la tradition héritée des contes, celle de Cendrillon et Belle, peuvent être source du schéma. La girl next door, donc littéralement la fille d'à côté, c'est l'archétype de la fille normale, à la féminité modeste. Elle est affectueuse, amicale, simple et innocente. Il s'agit de l'héroïne traditionnelle des comédies romantiques américaines. On retrouve souvent ce personnage face à un homme puissant, un PDG de grosse entreprise, et souvent son patron, un homme riche, un chef de cartel, bref. Je vous conseille de jeter un coup d'œil au drama chinois disponible sur YouTube pour vous faire une image de ce schéma. On entre là dans le stéréotype de Cendrillon. Une jeune fille gauche, innocente et faible, se retrouve face à un homme puissant, charismatique et souvent dangereux. Mais cette notion de danger n'est pas non plus sans évoquer le stéréotype de la Belle et la Bête. C'est exactement ce topos que l'on retrouve dans le roman érotique Hadès et Perséphone, mais aussi d'une certaine manière dans la série webtoon Lore Olympus. Non seulement le rapport de force n'est pas équilibré entre les deux personnages, mais dans Hadès et Perséphone s'ajoute une forme de violence qui rappelle le rapt de Perséphone. Dans le roman, la jeune fille est liée à Hadès et aux enfers par un pacte. Elle est donc en quelque sorte prisonnière, comme la Belle l'est de la Bête, ou encore, pour revenir à l'Antiquité, Psyché et son monstre. Ce contexte de lien contraint conduit nécessairement au cliché du hate to love. Perséphone évidemment tombe amoureuse contre son gré de son persécuteur, d'autant plus que sa mère l'a toujours mis en garde contre Hadès. Mais on ne peut pas lutter contre les moires et le sexe torride. On peut aussi voir dans ce schéma un récit initiatique. Sous ces dehors d'histoire d'amour, plus ou moins spicy, l'histoire d'Hadès et Perséphone prend la forme d'un récit qui pourrait être initiatique. À travers l'amour, l'un et l'autre découvrent une partie de soi. C'est d'autant plus vrai pour Perséphone qui découvre l'ampleur de ses pouvoirs dans sa lutte amoureuse. L'homme, plus expérimenté, se présente nécessairement comme l'initiateur non seulement des pouvoirs de la déesse, mais aussi de la sensualité et de l'amour. On reste sur un schéma bien patriarcal de la Vierge qui s'offre à l'homme pour accéder au statut supérieur de la femme, celle qui maîtrise sa féminité et son pouvoir. Mais on peut aussi retrouver le schéma de la sauveuse. Comme dans toute relation dysfonctionnelle, se joue encore et encore le schéma du persécuteur, de la victime et du sauveur. Perséphone est la victime d'Hadès, mais celui-ci est la victime d'un système. Alors Perséphone devient sa sauveuse en l'humanisant et en lui apportant l'amour qui lui manquait tant pour ne plus être un persécuteur. Ce schéma toxique se trouve à l'origine des histoires d'amour rédemptrices. En général, dans les romans, ça finit bien. Dans la réalité, c'est autre chose. Si ces schémas de récits existent depuis l'Antiquité, il me semble significatif qu'ils s'inscrivent aujourd'hui dans une réécriture des mythes, comme un retour à l'envoyeur, mais surtout dans un cercle vicieux infernal. Car si l'on n'a pas la distance nécessaire pour déceler ces clichés, ils s'intègrent à présent dans un mythe réactualisé, empêchant en quelque sorte d'en sortir. Ces réécritures, sous forme de romances toxiques, ne renouvellent pas le mythe, malgré tous les efforts de modernisation, mais des schémas sociaux dont pourtant il nous faudrait sortir. J'ai néanmoins très envie de continuer à vous parler mythologie à travers la figure de Perséphone, qu'il est clair que nous y reviendrons dans de prochains épisodes. J'espère que cette excursion dans le monde surprenant de la romance mythologique vous aura intéressé. Je vous invite à ne pas hésiter à me faire des retours, puisque maintenant on peut commenter les épisodes de podcast sur Spotify. Je vous invite aussi à noter ce podcast avec 5 sur 5, ce serait mieux. Et si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pourrez tout à fait le faire sur Instagram, où je me trouve sous le nom Between the Books. À bientôt !